Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias.
Les médias, les débats avec vous, avec Jacques Myard. Bonjour Jacques Myard. Vous m'entendez ? Maire LR de Maison Lafitte, Gaëtan Dussausset, membre du Conseil national du Rassemblement national. Également avec nous Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, également éditorialiste sur Sud Radio tous les mercredis matins. Et Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. Bonjour à vous. Alors, on va encore parler du gouvernement. On n'a pas évoqué Pape Ndiaye tellement hier, donc on va y revenir. L'anti-Blanquer, virage de Macron hier, vous savez, il est allé rendre hommage à Samuel Paty, on va y revenir. Le pouvoir d'achat, Bruno Le Maire en appelle aux entreprises. Pouvoir d'achat, le vrai casse-tête du gouvernement. Est-ce qu'on assiste à un lâcher, à une ouverture des caisses une fois de plus avant les législatives? Et puis toujours l'affaire Damien Abad, toujours très compliquée. Tous ces sujets avec vous. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Bah, Gaëtan Dussausset, on va commencer avec vous.
Oui, alors j'avais un... Bonjour Valérie. J'avais une sorte de... Au départ, c'était un coup de gueule qui après s'est un peu transformé en coup de cœur parce que heureusement, on a été sauvés par la mobilisation des internautes. C'était en ce qui concerne l'invitation de Jawad Ben Daoud dans l'émission de divertissement bien connue sur la 8. Il ne faut pas faire non plus trop de publicité aux concurrents télévisuels. Mais...
Parce que dans ce cas-là, on peut donner l'information. Alors, TPMP, c'est l'émission de Cyril Hanouna.
Oui. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que, bon, alors je rappelle, hein, Jawad Ben Daoud a été condamné, même si lui a revendiqué tout au long de son procès de ne pas avoir su qui étaient les gens qui l'hébergeaient chez lui. Il n'en reste pas moins qu'il a été condamné avec de la prison ferme pour avoir hébergé les terroristes du Bataclan. Et c'est vrai que cette recherche à tout prix du spectacle, du buzz, de la société spectacle que l'on a sur certaines chaînes et certaines manières de faire, bah, moi, me désole énormément, parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on préfère évidemment qu'on ait plutôt une pensée pour les victimes, pour les familles de victimes, qu'on les entende eux, que ce soit eux qui soient devant les caméras, plutôt que des personnes qui ont été condamnées, je le rappelle, hein, c'est pas simplement une enquête ou un soupçon, il a été condamné pour cela. Donc évidemment, ça a créé une grande indignation sur les réseaux sociaux et Cyril Hanouna a été obligé, et je me réjouis de cette nouvelle, de l'avoir apprise ce matin, et bien tout simplement d'annuler la venue de Jawad. Je pense que c'est une très bonne chose, on s'en
mettra. Ouais. La question qu'on peut se poser, c'est comment avoir eu l'idée d'inviter ce type. On aurait préféré qu'il n'ait pas l'idée. En fait, Cyril Hanouna a vu la bronca sur les réseaux sociaux et les victimes qui l'ont supplié de ne pas recevoir ce type. Et effectivement, beaucoup allaient dans ce sens-là en disant mais comment ont-ils même pu avoir l'idée de le recevoir? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexis Poulain.
Oui, c'est un moment, cette culture du clash, du buzz à tout prix, de vouloir inviter des personnalités extrêmement clivantes, il y a une limite et elle a été montrée de ce point-là. C'est-à-dire que les victimes ne peuvent pas tolérer qu'on invite Jawad Ben Daoud comme un people lambda alors qu'il a été condamné pour avoir hébergé les terroristes. Donc c'est la limite. Je crois qu'à un moment, j'espère que Cyril Hanouna a compris le message et que peut-être ça infléchira la ligne éditoriale de son émission par la suite.
Ouais. Pascal Jalabert, vous étiez au courant de cette affaire?
Oui, évidemment, j'ai suivi ça, notamment sur les réseaux sociaux, hein, où Cyril Hanouna, qui est d'ailleurs un grand utilisateur des réseaux et qui s'appuie beaucoup là-dessus, a été brocardé. Il faut quand même se mettre à la place des familles de victimes et des rescapés. C'est quand même du bon sens et du respect. Et là, une ligne a été franchie. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait aller plus loin et peut-être sanctionner Cyril Hanouna parce que on parle quand même de dizaines de morts et de jugements. Bon, alors même si Jawad Ben Daoud n'était pas directement dans le Bataclan ou au Terrasse, c'est quand même lui qui a hébergé ces terroristes. On peut les appeler comme ça maintenant.
Il a été condamné. Il a fait de la
prison.
Il
a été condamné. Voilà.
Et effectivement. Oui, un auditeur nous dit j'ai trouvé odieux ces explications foireuses pour se justifier en disant mais je voulais mettre en garde ceux qui qui pourrait être tenté. Dans ce cas-là, il invite des victimes qui vont raconter leur douleur. On n'invite pas un violeur pour raconter.
Non, pour raconter comme c'est mal de violer. Légère, quoi. Non, non, ouais. ça, c'est franchement bref. Totalement déplacé.
Jacques Miard, un avis ?
Bon, écoutez, je suis assez d'avis avec ce que vient de dire Pascal. Il y a des moments, il faut savoir raison garder et, je dirais, agir en responsabilité. C'est pas parce qu'on est journaliste, c'est pas parce qu'on est un amuseur public qu'on doit faire tout et n'importe quoi.
Oui, non, c'est... Voilà. Jacques Miard, vous, c'est un coup de gueule ?
Oui, c'est un coup de gueule sur ce qui est en train de se passer en Europe. C'est-à-dire que... Il est évident que les Américains sont en train de faire main basse sur tous les États européens à travers l'OTAN. Alors, je comprends parfois complètement parce que la Finlande, la Suède ont des inquiétudes. Ça fait longtemps qu'ils les ont exprimées. Je me souviens d'un ambassadeur suédois, une ambassadrice qui me disait que régulièrement, ils devaient dénoncer les violations des sous-marins russes dans les mers territoriales. Il n'en demeure pas moins qu'il faut regarder ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'OTAN est la première organisation militaro-diplomatique politique en Europe et qu'en faisant entrer l'ensemble des pays de l'Europe dans l'OTAN, les Américains gèrent leur politique étrangère. Et adieu la défense européenne, ça ne tient pas, c'est terminé. Macron, comme je l'ai dit souvent, il a le cul entre deux chaises. C'est un Européen convaincu, un eurolâtre même avec sa dépense européenne. Et maintenant, tous nos petits camarades sont pour l'OTAN. Donc, c'est la mainmise américaine sur la politique étrangère avec des buts de guerre qui sont les leurs et pas les nôtres. Ouais. Il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, on a vu que Biden vient de dire, bien évidemment, que grâce à la crédibilité retrouvée en Europe, il défendra bec et ongles l'indépendance de Taïwan. Et puis ensuite, il y a l'État profond qui commence à faire marche arrière. Bon, donc, c'est un problème réel que nous devons regarder en face. C'est pour ça que je dis, il est temps que la France renoue avec une politique étrangère indépendante, n'en déplaise à nos partenaires européens.
Oui, mais comment faire, justement ?
Oh, c'est enfin, très simple. Je sais pas. C'est une question. C'est très simple. C'est une question de politique étrangère et c'est une question de volonté politique. Nous ne sommes pas une hyperpuissance, il n'y en a plus d'hyperpuissance en réalité, on est dans un monde des puissances relatives. Mais nous pouvons avoir la possibilité de nous exprimer haut et fort. D'ailleurs, je dois reconnaître que sur un certain point, Macron le fait et que notamment dans son discours au Parlement européen, il a redit la nécessité de sortir de l'humiliation et qu'à terme, les Russes sont là, point barre, tout comme les Ukrainiens, bien sûr. Mais c'est la raison pour laquelle la France a la capacité à faire bouger les lignes. On l'a vu, notamment au moment de l'Irak.
Mais vous avez vu que Joe Biden n'a pas cité la France, d'ailleurs, dans les pays qui l'ont aidé en Ukraine.
Et pour cause.
Oui.
Vous savez, ils ont joué un drôle de jeu, hein, il faut le savoir, parce que dans les accusations Poutine, qui ne justifie pas son agression, ils ont quand même exfiltré aux États-Unis le chef de la Gestapo ukrainienne et ils ont organisé des réseaux anti-soviétiques jusqu'en 1960. Donc il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. C'est pas bleu blanc cette affaire. Hein. Je ne donne surtout pas raison à Poutine parce qu'il a fait une faute et c'est une guerre inutile et d'agression, mais il faut regarder que parfois les manipulations, ça existe.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Débat avec vous, avec Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Gaëtan Dussausset, membre du Conseil national du RN, Rassemblement national, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur Sud Radio, c'est tous les mercredis matins, Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. On va revenir sur les nominations qui suscitent la polémique, celle de Damien Abad, celle de Pap Ndiaye, et puis on va parler du pouvoir d'achat avec Bruno Le Maire qui en appelle aux entreprises, tous ces sujets avec vous. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres dans l'actualité. Alexis Poulain, un coup de gueule.
Oui, et ben c'est suite à la rubrique News hein, avec ce fameux fondateur d'Assu 2000, Jacques Boutier, 75 ans, qui tombe pour trafic de mineurs, corruption, viol, pédocriminalité, et qui avait embarqué un gendarme du GIGN hein, pour enlever la jeune fille qui avait eu le courage à 22 ans d'aller contacter la police pour dénoncer les faits de ce sinistre personnage. Et puis ça pose une question sur la pédocriminalité au sein des élites, puisqu'on a Jérémy Ladret de la Cherrière, le fils de Marc Ladret de la Cherrière, condamné 3 fois hein, pour détention d'images pédopornographiques. Christophe Béchage, qui était le fondateur de Terra Nova, qui est tombé en 2017 en Grande-Bretagne hein, parce qu'il voulait faire des séances photo avec des fillettes de 8 ans. Et c'est une policière qui s'est fait passer pour la fillette qui a pu l'interpeller. Et puis on parlait de... alors, ce n'est pas de la pédocriminalité, mais là, c'est de la criminalité sexuelle. Laurent Bigorgne hein, qui droguait ses collaboratrices.
Enfin, il n'a pas été condamné. Hein, il faut...
La justice on rappelle la travail.
Voilà. Non, ouais, non, mais on rappelle mais bon, la présomption d'innocence. C'est les mentions légales. Mais,
comme pour Damien Abad, présomption d'innocence, mais à un moment, on peut se poser la question quand même d'un certain dysfonctionnement des élites autoproclamées en se disant mais c'est pas possible en fait qu'il y ait autant d'affaires et que alors ces affaires parfois on en sort une, il y a l'affaire Epstein bien sûr hein, qui est l'affaire de toutes les affaires en termes de réseau pédocriminel, Jean-Luc Brunel qui s'est suicidé en prison hein, qui était le français de l'étape qui fournissait les jeunes filles à Epstein. Et puis, il faut rappeler que Jeffrey Epstein passait 4 à 6 mois de l'année en France et on ne parle pas beaucoup de ce qui s'est passé en France pendant que Jeffrey Epstein était présent sur notre territoire. L'enquête, bien sûr, suit son cours, mais avec les suicides à répétition, ça me paraît difficile de trouver une vérité et de sauver les victimes ou du moins de les indemniser, même si c'est tard.
Mais cette histoire est effectivement de Jacques Boutier, donc PDG d'Assu 2000, particulièrement sordide et ignoble. On parle de viol, de séquestration, de traite d'êtres humains. S'il faisait partie des 60 plus grosses fortunes françaises.
Et, c'est ça. Et toujours le même profil, c'est-à-dire de prendre des jeunes filles en faiblesse psychologique qui étaient en foyer ou qui, dont la parole ne serait pas prise au sérieux par la police. C'est exactement ce que vous avez dit.
Alors Stéphane vous dit que vous mélangez un peu tout. Il n'a pas tout à fait tort. Vous faites une sorte de package.
J'ai mis un disclaimer. Attention, je ne mélange pas tout. J'ai parlé de 3 affaires de pédocriminalité. Pour les autres, c'est autre chose et la justice fait son travail. Les 3 affaires que j'ai citées, Terra Nova, Jérémy Ladret de la Cherrière et Jacques Boutier, là, en l'occurrence, les condamnations sont tombées.
Non, elles ne sont pas tombées. Boutier, il est mis en examen.
Pour Ladret de la Cherrière et Béjage, elles sont tombées. Voilà.
Voilà. Bon, effectivement, vous faites bien de parler de cette affaire. Un commentaire sur ce que vient de dire Alexis Poulain, les uns et les autres.
On ne peut qu'approuver. Ouais. Et ce qui est sordide, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a des compromissions également ou des coopérations, entre guillemets, de la famille de cet individu. C'est incroyable. C'est incroyable.
Ouais. Sa femme.
Sa femme, la première. Ouais. Enfin, la première qui fait partie des gens qui sont mis en examen. Alors, on continue. Qui n'a pas fait son coup de gueule? C'est... Je ne sais plus.
C'est moi, c'est Pascal. C'est
vous. Allez-y, Pascal Jalabert, pardon. Pascal,
oui.
Je vous écoute.
Ben, écoutez, moi, je suis entre rugby et politique. Hein. On sait que sur Sud Radio, on aime beaucoup le ballon ovale. Et c'est dans le Progrès à Lyon où on a appris ce week-end que les élus lyonnais, donc majorité écologiste, refusaient d'accueillir les demi-finales du top 14 de rugby, le championnat de France, au motif que parmi les sponsors, il y a une marque de voiture et que donc cette marque de voiture doit sponsoriser des événements festifs autour des demi-finales. Et la majorité écologiste refuse de faire la promotion d'un événement sponsorisé par une marque d'émetteur de CO2. Donc, les élus lyonnais s'étaient déjà attaqués au Tour de France, hein, rappelons-le, qui jugeaient trop polluant. Bon, ils avaient été contraints de l'accueillir dans leur ville parce que c'était signé par la majorité précédente. Mais là, Enfin, on touche à l'absurde. Ce sont des rabat-joie, alors ils n'aiment pas la fête. En plus, le rugby véhicule des valeurs. La promotion des événements qui est faite autour de cette grande fête du rugby, ces demi-finales dans une même ville, c'est coloré. Il y a des supporters qui viennent de partout, de Toulouse, de Clermont, de Toulon, de Paris, peut-être même de Lyon avec le Loup, de Bordeaux, enfin bref. Selon les équipes qu'il y a, c'est un grand événement festif. Les animations incitent à l'effort, incitent à partager les valeurs du rugby que l'on connaît, l'échange, la fraternité, la solidarité, et on va refuser ça. Et, cerise sur le gâteau, l'article du Progrès nous apprend que dans le cadre de la promotion de ces véhicules, ce sponsor voulait en plus promouvoir l'électrique. Donc, ils ont tout faux, c'est un gros raté, et franchement, c'est du dogmatisme mal placé. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis un grand amateur de rugby et que j'aimerais voir à Lyon, une ville que j'aime beaucoup, ces demi-finales du Top 14, qu'ils ont d'ailleurs déjà accueillies. Mais là, on touche au dogmatisme qui fait détester la politique.
Ouais, c'est complètement absurde, ridicule. En plus, c'est une perte financière importante
pour
la ville.
En plus,
oui, pour
les commerçants.
C'est invraisemblable.
Voilà, imaginez, ce sont 50 000 supporters de 4 équipes différentes qui débarquent. Donc bon, c'est que les supporters de rugby, ben, ils font la fête toujours dans un esprit bon enfant. Hein. Rappelons que ce n'est pas non plus les ultras du football, rien à voir. Ils vont dans les bars, ils vont dans les restos, ils font venir des jeunes. Toutes les écoles de rugby sont conviées. Bref, c'est un événement populaire. Et eh bien, ça fait dire que les écologistes, une fois de plus, n'aiment pas ces grands rassemblements populaires. C'est bien dommage. Alors, ils ne sont pas tous d'accord, heureusement. Il y a des gens comme Danny Cohn-Bendit, comme Yannick Jadot qui contestent ce genre de décision, mais il n'empêche que c'est une nouvelle atteinte à une fête populaire et à un sport qui véhicule quand même des valeurs qui méritent d'être partagées.
Monsieur le maire de Maison Lafitte, vous en dites quoi?
Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les écologistes, c'est une escroquerie intellectuelle permanente. C'est aussi simple que ça.
Pas tous.
Mais bien sûr que si. Il n'y a qu'un bémol dans ce que vous venez de dire, cher monsieur Jalabert, cher Pascal, c'est que la promotion de la voiture électrique, ça encore, c'est une escroquerie totale. Parce que la voiture électrique, lorsqu'on va partir en vacances, il faudra amener tellement d'électricité pour.
C'est vrai.
C'est impossible. Et ça se chiffre par des dizaines de centrales nucléaires nécessaires. Voilà. Bon, mais cela étant, il y a du côté effectivement de ces écologistes une idéologie. C'est une religion, il faut le savoir, parce que beaucoup aujourd'hui, il y a un réchauffement climatique. C'est évident. Simplement, les causes, elles restent à être prouvées scientifiquement. Et là, on vient d'apprendre, comme par hasard, qu'une étude britannique dit que la Lune y serait pour quelque chose. Comme moi, je pense qu'il y a un problème aussi de phénomène solaire avec les taches solaires. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus, je dirais, tout mélanger avec cette religion, l'écologie, on va mourir, etc. C'est une catastrophe. Je vais vous citer un cas. Les Américains, il y a quelques années, dans les années 84-85, nous prétendaient qu'il fallait supprimer dans les aérosols la substance qui permet, je dirais, aux aérosols de fonctionner. Oui. Et donc, ce qui s'est passé, on m'avait envoyé, lorsque j'étais à la direction des affaires juridiques, on m'avait envoyé du côté du PNUE aux Nations Unies en disant, si ça continue, on va griller comme des sardines parce qu'il y a des trous dans la couche d'ozone. En fait, c'était totalement faux parce que les trous dans la couche d'ozone dans les années 90, c'était moins important qu'au début du siècle. Et surtout, on a appris après que ce qu'était la volonté des Américains, c'était que comme la molécule en question était tombée dans le domaine public, il fallait la remplacer par une autre pour faire du fric.
Ouais.
Donc, c'est ça le problème.
C'est encore...
Le réchauffement climatique, il est là.
C'est pas autre chose.
Le réchauffement climatique, il est là. Mais c'est vrai que
ce que je dénonce, c'est que c'est
le dogmatisme.
C'est pas en un an des matchs de rugby par dogmatisme. On va lutter contre le réchauffement climatique.
Mais tout ça, c'est au nom d'une religion qui s'appelle l'écologie. Eh bien, il y a un moment, il faut remettre les parmi.
Non, moi, je dirais. Ce n'est pas une religion, c'est une conscience d'être écologiste. Mais
non, ce n'est pas une conscience.
Le tout, c'est de l'appliquer à bon escient. La lutte contre le réchauffement climatique, encore une fois, ça ne se fait pas en annulant une étape du Tour de France ou un match de rugby.
On est bien d'accord, mais bon, c'est voilà. Bien là où l'idéologie.
Il y a d'autres actions qui porteraient un peu plus.
Allez, c'est là où l'idéologie supplante la raison.
Oui,
alors là, je peux faire mon coup de gueule à moi ou la minute marche sur la tête où on est hors sol. C'était un papier hier dans Le Monde. Violence à l'hôpital à Digne-les-Bains, des cours de Krav Maga pour les soignants. C'est-à-dire que on préfère apprendre aux soignants à se défendre contre les violences qui sont de plus en plus nombreuses plutôt que d'embaucher éventuellement du personnel de surveillance ou encore améliorer les conditions d'accueil des soignants ou même les conditions à l'hôpital. C'est-à-dire des cours de Krav Maga. Le Krav Maga, c'est un art martial de self-défense. Enfin, je trouve qu'on est quand même chez les dingues. C'est-à-dire qu'on dit oui, il y a de la violence. Donc plutôt que de se battre contre cette violence, on apprend aux soignants à se défendre. On marche sur la tête. Qui veut réagir?
Ça m'avait choqué.
Ouais.
Ça
m'avait choqué. Vous l'avez vu, ce papier aussi?
Ouais. Ouais, je l'avais mis dans la revue de presse hier aussi parce que c'est vraiment le symbole de cette société de la violence. C'est-à-dire que plutôt que d'aller à la source, de dire mais c'est pas possible de dire ça, on va dire aux soignants, alors déjà vous n'êtes pas assez nombreux, mais en plus on va vous apprendre le Krav Maga pour vous défendre plutôt que de vous protéger ou d'empêcher l'accès à des personnes violentes à l'enceinte de l'hôpital. C'est proprement dingue.
C'est-à-dire qu'on accepte le fait qu'il y ait de la violence.
Oui, voilà. Et en disant maintenant, c'est à vous les soignants de vous défendre. Il n'y a même plus l'idée de défendre le personnel soignant. C'est à eux de tout faire. Alors qu'ils font déjà des gardes de 24 à 48 heures qui sont sous l'eau, mais maintenant on va leur dire en plus, maintenant c'est à vous de prendre la violence de la société sur vous encore plus. C'est ultra violent de faire ça. Et après qu'on ne vienne pas pleurer en disant qu'il va y avoir des morts cet été parce que les urgences ferment. On veut dégoûter les gens de ce métier-là, c'est pas possible.
Ouais. Alors Gaëtan, j'imagine Gaëtan Dussausset, ça vous interpelle?
Oui, c'est très juste. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit, à l'indignation qui est partagée par tout le monde. Parce que c'est vrai qu'en plus, on sait qu'il y a quand même une crise de vocation sur ce métier des soignants, sur le travail dans les hôpitaux publics, non seulement déjà pour des questions évidemment de matériel, de soutien aussi politique pendant la crise sanitaire, et de soutien même tout court hein, lorsqu'il y a des problèmes. Après, c'est très symptomatique. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, quand l'État est incapable de gérer la sécurité et d'imposer la sécurité, on en revient à quoi ? Eh bien, on en revient à faire la sécurité soi-même. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ne veut pas, hein, je pense pour le Rassemblement national, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager avec grand monde, c'est que finalement, à défaut d'avoir un État qui bien supporte ses responsabilités et assure la sécurité de tous, eh bien, qu'on se retrouve à avoir des gens qui assurent leur propre sécurité, sont obligés de consacrer une partie de leurs moyens pour sécuriser leur habitation, par exemple, par le biais de vidéoprotection ou autre. Et ça veut dire quoi ? C'est quoi la prochaine étape ? C'est qu'ensuite, les gens feront justice par eux-mêmes. Donc, quelque chose comme ça n'est absolument pas viable. Si on veut de la sérénité dans la société, il faut qu'évidemment, on ait un État fort qui assure la sécurité de partout et non pas qu'il le délègue aux citoyens.
Ouais, un petit mot, Pascal Chalabert ?
Sinon, c'est la jungle.
Ben oui, mais c'est un peu ça. Oui, hein. Ça veut dire qu'on va se battre contre des délinquants à l'hôpital ou contre des agresseurs, Pascal ?
Oui, voilà. Franchement, ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne peut plus aller exercer son métier de soignant en toute sécurité, il est clair que ben, les vocations, il n'y en a déjà pas beaucoup, ça va encore les décourager. Donc, il est urgent d'agir. C'est à l'État de financer un moyen de surveillance et de protection des hôpitaux, de protection des personnels hospitaliers, sous peine de voir disparaître. Après, moi, je voudrais voir ce que deviennent les agresseurs de personnel hospitalier. Je pense qu'il faut porter plainte systématiquement et que derrière, il y ait une action en justice. Pourquoi pas, comme pour tout dépositaire de l'ordre public, ne pas créer une circonstance aggravante avec des sanctions pénales adaptées.
Ouais, mais vous lirez l'article du Monde qui est quand même assez surréaliste sur la situation que vivent certains soignants, en particulier aux urgences. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous et on revient sur le cas Abad. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, on commente l'actualité et hélas, parlons de Damien Abad parce que c'est tout de même l'actualité. Ancien patron des députés LR, nommé ministre des Solidarités, en dépit d'un signalement pour des faits présumés de viol. Deux femmes dont Mediapart a recueilli les témoignages l'accusent de viol. Ces témoignages, je le rappelle en tout cas l'un d'entre eux, étaient parus dans le magazine Closer en 2017. Donc ce sont des faits, en tout cas pour l'un d'entre eux, qui étaient connus. Oui, Gilles nous dit encore le cas Abad. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre à traiter comme sujet? Si, on va parler du pouvoir d'achat. Néanmoins, c'est un fait politique qui empoisonne le gouvernement et qui pose un certain nombre de questions politiques. Je vous propose de réécouter ce que disait Christian Jacob. On l'a entendu dans le zapping, mais ce qu'il dit est tellement sidérant. Écoutez ce que disait Christian Jacob, donc le président des LR.
Et ça, la justice le dira, c'est à lui de savoir s'il est innocent ou pas. Moi, je ne suis pas juge. Simplement, les plaintes qui ont été déposées sont lourdes. La pression est là. Maintenant, c'est à lui, en son âme et conscience, hein, de se regarder dans la glace et de savoir ce qu'il a à faire. Il y a eu des rumeurs qui avaient circulé en 2017. Je l'avais à l'époque interrogé. Il m'avait dit que tout cela était faux. D'ailleurs, qu'il n'avait eu aucune convocation. Et depuis, on n'a pas les moyens d'avoir... On a moins de moyens que vous. On n'a même pas de carte de presse pour avoir les informations.
Voilà. Alors, Jacques Mier, c'est votre famille politique qui s'exprimait. On s'étonne de ce que dit Christian Jacob, qui s'indigne aujourd'hui alors qu'il a quand même été promu patron des députés à l'Assemblée. Il feint de découvrir d'une certaine manière cette histoire. Il y a aussi de la politique dans tout ça.
Non, il faut être clair. Effectivement, je me souviens d'une conversation que nous avions eue entre députés à la buvette de l'Assemblée nationale, où j'apprenais effectivement cette rumeur. Maintenant, la rumeur, il faut se méfier des rumeurs, parce que c'est très grave. Lorsque Christian Jacob dit...
Un viol aussi, c'est très grave, hein. Enfin, les deux, c'est...
Ben non, mais j'entends bien. J'entends bien. C'est la raison pour laquelle il faut savoir garder raison et laisser l'enquête se poursuivre et que la justice tranche. Dans ce que dit, parce que là, effectivement, moi je ne savais même pas que Christian Jacob, qui est un ami et un homme dans lequel j'ai pleine confiance, l'avait interrogé en son temps. Et bien sûr, il avait nié toutes ces accusations. Je crois que maintenant, il faut que l'enquête se poursuive rapidement et que les Français en soient informés également, et que les sanctions tombent, 6 sanctions, parce que effectivement, c'est grave dans les deux cas. Hein.
Oui, c'est grave dans les deux cas. Pascal Jalabert, cette affaire qui est dramatique à la fois évidemment pour la victime, mais si on parle politique, pour le gouvernement, puisqu'on ne parle que de ça.
Alors voilà, il faut distinguer, comme nous disions hier, hein, les deux aspects. Il y a l'aspect judiciaire et en effet, là, ce serait pour le coup pertinent qu'il y ait une instruction rapide parce que bon, c'est quand même un ministre, un personnage public, donc on comprendrait qu'on aille vite vu la gravité des faits présumés et des accusations. Voilà. Donc ça, c'est le côté judiciaire et la vérité ne sortira que de la justice. Là, il n'y a pas de doute ni de contestation possible, savoir si c'est Damien Abad qui ment ou si c'est la plaignante. Donc ça, c'est pour la justice. Et après, il y a le côté politique et la question, c'est de savoir, Damien Abad est-il en mesure d'exercer pleinement et sereinement ses fonctions de ministre dans un domaine très important, puisque on est quand même dans un domaine très important avec une ministre qui était Sophie Cluzel, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs sur l'inclusion des handicapés. Donc du coup, la réponse politique, c'est qu'aujourd'hui, Damien Abad n'est pas en mesure. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il va se déplacer, eh bien, il va y avoir des questions de journalistes, des manifestations, et comme vous le dites, on ne va l'interroger et s'interroger que sur ce cas-là, pour savoir s'il y a une faute d'un homme, une faute du gouvernement de l'avoir nommé ou pas. Donc du coup, laissons faire la justice et moi je serais favorable à une mesure, écoutez, provisoirement, comme ça se fait d'ailleurs dans les entreprises, vous êtes suspendu en attendant la décision judiciaire. C'est-à-dire, si vous êtes blanchi, vous redevenez ministre, si vous êtes coupable, eh bien c'est la justice, enfin si vous êtes accusé, pardon, c'est la justice qui décidera la suite. Mais là, très clairement, il y a des dossiers importants et Damien Abad n'est pas en capacité publique de les traiter convenablement.
Oui. Alors, je voudrais, Gaëtan Dussausset, Marine Le Pen, elle dit « Difficile d'imaginer que Macron ne savait pas, mais il n'a pas pu résister à faire un bon coup en débauchant un joueur de l'équipe adverse. » Enfin, c'est pas, enfin oui, c'était le patron des députés à l'Assemblée. C'est pas, enfin, je sais pas, contre, vous me dites si c'est, je dis une bêtise, mais c'était pas un poids lourd non plus des LR. Enfin, c'est pas une prise de guerre.
Ça, c'était quand même le ouais. chef de file des, oui, des parlementaires oui, LR à l'Assemblée nationale. Après, d'ailleurs, il y a eu un petit spectacle un peu affligeant de la part de M. Abad, qui ne voulait pas démissionner d'un côté de ses responsabilités LR tant qu'il n'avait pas la garantie d'être nommé au gouvernement. Bon, tout ça, après, c'est de la tambouille politicienne. C'est pas étonnant que ça fatigue énormément de Français quand ils voient ce genre de scénario. Maintenant, juste sur les affaires, là où j'ai un désaccord quand même avec Pascal Jalabert, c'est que alors oui, évidemment, il est aujourd'hui dans une situation qui est difficile, qui est certainement pénible, s'il est innocent, je précise bien s'il est innocent, mais ça c'est évidemment la justice qui nous le dira, et personne d'autre ne le dira que la justice et les juges. Évidemment, il va être dans une situation qui est compliquée et délicate, aussi bien lui à titre personnel que le gouvernement, s'il est innocent, encore une fois, je le précise, mais par contre, il est vrai que je pense, et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un soutien des Emmanuel Macron, ni du gouvernement, ni de sa politique qui vous le dit. Mais je pense qu'il aurait tort de se mettre en retrait, il aurait tort de démissionner. Parce que sinon, ce serait donner raison à la moindre accusation. Ce serait donner beaucoup trop d'importance à cela, donc beaucoup trop d'importance politique à cela. Et ce serait d'ailleurs aussi desservir les réelles victimes de l'autre côté. Si par contre, l'enquête aboutit à une condamnation, alors là, évidemment, il doit être sanctionné de manière exemplaire, peut-être même plus que le droit commun pour les autres, puisqu'il a justement un poste de responsabilité de représentation de l'État. Et il doit démissionner dans la seconde qui suit, ça c'est évident. Mais en attendant, je pense qu'on ne peut pas se permettre de laisser ainsi finalement l'organisation politique et l'action politique décider finalement simplement par la création ou d'enquêtes ou par des plaintes qui sont déposées. Il faut d'abord qu'il y ait la vérité qui soit faite par les juges et par la justice.
Oui, parce que un point important dans ce que dit Pascal. Dans ce que dit Pascal, si jamais il se mettait en retrait maintenant, qu'il va avoir des difficultés pour remplir ses fonctions, je crois que ça va être réel. Mais s'il se met en retrait, c'est un aveu et c'est préjugé. Il faut simplement que la justice agisse très très vite.
Voilà, parce que ça situation... Mais moi, je me mets du point de vue de l'usager. Je suis l'association lambda qui doit traiter avec ce ministre. Je suis un service d'État qui doit traiter avec ce ministre. Et puis, il y a des dossiers importants, des dossiers lourds de financement, des dossiers d'ouverture de centres pour handicap, etc. Et si chaque fois qu'il se déplace ou qu'il vient traiter un dossier, on l'embête avec ça, c'est l'usager qui va être pénalisé. Donc, encore une fois, j'ai dit...
Vous savez, il y en a un autre, hein, il s'appelle Dupond-Moretti.
Oui, mais voilà.
Si on
suit le raisonnement, ça veut dire qu'il faut attendre la condamnation définitive.
C'est pas exactement la même chose, Dupond-Moretti. On l'a évoqué hier. Alors, Alexis, on marque une petite pause parce que c'est l'heure de la pub et on se retrouve tout de suite après. Je vous donne la parole. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, nous parlions du cas Damien Abad, Libération lui consacre sa une et tout un dossier à lire le témoignage de l'une de celles qui l'accuse, qui explique qu'on a fait à l'époque plus d'enquêtes sur elle que sur Damien Abad, peut-être, et elle ne souhaite pas porter plainte elle n'a pas poursuivi dans ses plaintes, donc on viendra, on verra ce que ça va donner. Alors, Alexis Poulain, on ne vous a pas entendu sur cette affaire.
Oui, non, mais je crois que c'est sur cette affaire, le maître mot, c'est présomption d'innocence, évidemment, et puis après, le bon sens qui voudrait qu'un responsable politique se mette en retrait le temps de la justice. On se rappelle François Bayrou, qui avait... immédiatement quitté ses fonctions de ministre de la Justice dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen du MoDem. Donc, pourquoi certains ont un comportement qui n'est pas le même en fonction... Alors, effectivement, se mettre en retrait, ça ne veut pas dire démissionner. Ça pourrait être une autre façon de faire parce qu'aujourd'hui, le message, finalement, ce nouveau gouvernement est caché derrière l'affaire Abad. Elisabeth Borne est quasiment éclipsée derrière cette affaire et ça va, excusez-moi du terme, emmerder tout le monde dans les jours qui viennent avant de retomber sur un agenda politique. Et puis l'autre problème, c'est l'aspect moral et c'est le dégoût finalement des citoyens français vis-à-vis des responsables politiques avec les taux d'abstention qui ne font qu'augmenter. Alors, on ne demande pas bien sûr aux responsables politiques d'être des parangons de vertu, mais il y a quand même un modèle d'exemplarité. Il y a quelque chose associé à une fonction. On parlait de M. Dupond-Moretti. Le fait qu'il ait été reconduit, c'est un message fort pour dire on s'en fout, hein, on va continuer comme ça alors que lui est mis en examen. Donc, il y a un vrai problème, je crois, de scission en fait entre un peuple qui est très loin de la chose publique et des responsables politiques qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font à la fonction. Mais ça peut être des choses plus anodines, hein, comme les trahisons de Manuel Valls par exemple, son départ pour l'Espagne en disant je quitte ce pays, mon pays c'est l'Espagne, et puis son retour pas en fanfare mais la queue entre les jambes pour être finalement investi par Renaissance et briguer un mandat de député. C'est ce genre de pratiques, je pense, qui font du mal à l'action politique non. Et à l'engagement politique des
non,
Français.
Mais la question qu'on peut se poser aussi d'un point de vue politique, c'est que cette affaire était sortie. Il y avait une affaire à battre, oui. Donc à soupçon. Comment la Première ministre dit qu'elle n'était pas au courant? Comment le gouvernement a pris le risque?
Macron était au courant.
Oui, mais oui. Mais
Macron
donc,
était au courant.
Mais en savez, sachant Macron... aujourd'hui ce que représentent les violences faites aux femmes, grande cause nationale, comment et on remarque, on se rappelle quand même de l'affaire Hulot. Hein, je revoyais des articles qui étaient sortis où on disait exactement la même chose, tribunal médiatique, etc. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison. Néanmoins, je repose la question. Oui, il y a des femmes qui mentent. Quel est l'intérêt pour une femme aujourd'hui de mentir? À l'époque, c'était en 2017. Je sais pas, je vois pas. Après, oui, il y a des femmes qui mentent. Néanmoins, j'entendais un commentateur hier dire tribunal médiatique, et puis après l'intervention de Damien Abad, dire ah, je l'ai trouvé très sincère. Bah, c'est tribunal médiatique dans l'autre sens. Hein, c'est quelque ça, part c'est dire oui, non, mais c'est mon copain. C'est ce qu'a dit Stanislas Guérini. C'est un honnête homme à propos de Perra. Il ne peut pas frapper une femme. Oui. Je veux dire, on est dans
bien pire,
dans l'impression.
Perra, puisqu'il a été condamné pour violence.
Donc
on était au-delà de l'affaire Abad. Hein. Là, il y a eu condamnation.
Mais la question, c'est comment, effectivement, vous le dites, Jacques Myard, le président de la République, était forcément au courant, et on prend le risque de voir ce qui est en train
Macron,
de se produire.
Macron est un cynique. Ce qu'il recherche, c'est foutre le bordel dans le camp adverse. C'est aussi simple que ça. Il a réussi, d'ailleurs, mais là, ça lui revient en boomerang. Il va falloir qu'il assume. Hein. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour que la justice aille vite.
Alors, il y a le cas Pap Ndiaye aussi. Pap Ndiaye, donc, nommé au ministère de l'Éducation nationale. Il est donc professeur d'université, diplômé de l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Ses prises de position par le passé ont jeté un certain nombre de... Enfin, ont lancé des polémiques. Il est adepte des débats sur l'immigration, sur la colonisation. Il a participé à des réunions qui excluaient les Blancs. Il n'a pas dénoncé, avant d'arriver, il n'a pas hésité à dénoncer les violences policières. Il évoque un déni dans le pays. Donc, bon, il arrive avec des propos. Faut-il lui laisser le bénéfice du doute, enfin, en tout cas, le bénéfice de son action future, ou s'inquiéter de ce qu'il a pu dire par le passé? Hier, il est allé rendre hommage à Samuel Paty. Certains disent qu'il n'a pas parlé d'islam. Apparemment, dans ses propos, je vous ai entendu pouffer de rire, Jacques Myard.
Oui, vous avez oublié quelque chose, parce que il a été adhérent du CRAN. Vous savez ce que c'est que le CRAN ?
Fondateur.
C'est le conseil.
Fondateur,
oui. Conseil représentatif des associations noires. Imaginez qu'il y ait un conseil représentatif des associations blanches. On hurlerait au Ku Klux Klan, à juste titre. Donc, cet individu, pour moi, est absolument incapable d'être ministre de l'Éducation parce qu'on connaît son engagement. Et je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a eu la passation des pouvoirs avec Blanquer, j'ai été stupéfait de voir cet homme être, je dirais, très hautain et conscient de sa valeur. J'ai été assez stupéfait de voir comment il agissait, comment il parlait du haut de sa stature en plaidant pour la méritocratie républicaine. Eh bien, la méritocratie républicaine, ce n'est pas le CRAN, parce que là, je suis extrêmement inquiet et je connais beaucoup de parents qui commencent à se poser des questions.
Oui, Gaëtan Dussausset.
Ce qui est certain, c'est que la méritocratie républicaine, c'est ce qui a permis justement à M. Papendiaï de devenir ministre de la République. Maintenant, après, il y a un choix qui a été fait, qui a été le choix d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un changement de fusil d'épaule total, puisque pour le coup, Papendiaï est l'anti-Blanquer par excellence. J'avais des grands désaccords politiques pour le coup avec Blanquer sur un certain nombre de réformes qu'il a pu mener au niveau de l'école et de manquements qu'on peut encore relever sur son bilan après 5 années. Mais pour le coup, Blanquer avait au moins cet avantage de nommer le mal, l'islamo-gauchisme, de refuser l'utilisation de l'écriture inclusive, de refuser la cancel culture, ce qu'on appelle les idéologies woke, etc., etc., qui pour le coup sont quand même des vecteurs de désunion assez importants. Et là, le nouveau ministre de l'Éducation nationale choisi par Emmanuel Macron, c'est tout l'inverse. Lui, il en est quasiment l'un des porte-parole, même l'un des porte-étendards. Quand on voit un peu qu'il suffit de regarder ses travaux, ses déclarations, les interviews qu'il a eues avec d'autres médias dans le passé, et vous les avez rappelés encore, quand il parle de violence policière, d'un racisme systémique, institutionnel qui existe...
culturel,
tout à fait, qui nous dit encore dans un rapport d'études commandé par l'Opéra National de Paris qu'il y a trop de blancs, il n'y a pas assez de diversité, qu'il faut recruter les gens en fonction de leur couleur de peau et non pas de leur talent. Mais désolé, mais savoir que c'est cette personne-là qui va avoir la responsabilité des écoles et de l'éducation de nos gamins est assez terrifiant. Et je pense que Emmanuel Macron est finalement, définitivement, le président de la déconstruction de la France, non seulement sur le côté la déconstruction par le haut, sur le côté économique, la mainmise de la finance sur l'économie réelle, etc., mais aussi par le bas, avec des idéologies qui viennent déconstruire tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons toujours été, et fait la fierté, non seulement de la France, mais aussi de la République.
Oui. Alors, Alexis Poulain.
Oui, c'est encore une fois, on parlait d'Emmanuel Macron cynique et manipulateur, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire passer de Blanquer à Papendiaï, c'est nos enfants. Au final, c'est l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est perdre encore davantage un fil qu'il essayait de tisser. Alors lui, maintenant, se compare à Héphaïstos, hein, il est là pour forger, mais forger quoi exactement? Et c'est vraiment un choix électoraliste de court terme, sans doute pour essayer de montrer qu'il est de gauche, hein, dans ses législatives, et qu'il faut toujours voter pour lui, pour ceux qui seraient le PS non affilié à la NUP. C'est une manipulation, encore une fois. Et n'oublions pas, le directeur de cabinet de Papendiaï reste le même que sous Jean-Michel Blanquer. Donc, de toute façon, dans ce gouvernement, il faut regarder qui est directeur de cabinet, puisque Elisabeth Borne a été nommée une semaine après son directeur de cabinet, qui a été choisi par Alexis Kohler. C'est un gouvernement de techno. Même les ministres, en réalité, n'ont pas tant de pouvoir que ça. Il faut regarder qui a été placé dans cette superstructure, Conseil d'État, ami de l'ENA, etc. Ce sont les technos qui ont pris la main, qui ont volé la République et qui sont en train de faire ce maillage. Et les ministres sont en train de devenir des comédiens. On a vu le ministre des Sports qui se filmait en train de faire sa séance de sport avant d'aller au Conseil des ministres. C'est même plus des politiques. Ils n'ont même plus la carrure politique. Et donc, regardez ça. Il faut surtout regarder ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne sont pas invités dans les matinales et ceux qui font la politique décidée par un seul et un unique être humain, Emmanuel Macron, le roi, puisqu'il se prend pour un roi. C'est maintenant évident depuis la cérémonie d'investiture.
Pascal Jalabert.
Oui, alors là où je suis d'accord avec Alexis, ça me rappelle la phrase de Mitterrand. Vous savez, après moi, il n'y aura plus que des comptables et des techniciens. Ça, c'est clair que c'est ce qui est en train de se passer. Après moi, je serais quand même moins sévère avec M. Ndiaye. On ne peut pas lui enlever que c'est quand même un produit de la méritocratie républicaine. Ça, de ce côté-là, il a réussi l'agrégation, il a réussi l'ENS, donc il a un CV. Maintenant, on va le juger sur pièce. Moi, les références au passé, je suis partagé. Je vais vous citer deux exemples, un à droite et un à gauche. Lionel Jospin a milité, on le sait, dans les mouvements trotskistes, lambertistes, dans sa jeunesse. Ça n'a pas empêché d'être un Premier ministre social-démocrate qui a fait des réformes.
Dans sa jeunesse, beaucoup, dans sa jeunesse, là on parle de... il était directeur du musée de l'immigration, et pardon de faire ce parallèle, on a reproché à Éric Zemmour ce qu'il avait écrit lors de sa campagne, et là on n'a pas dit qu'il fallait séparer l'homme de ses écrits. Là effectivement, des médias...
Non, parce qu'il a poursuivi ses écrits pendant la campagne. Là, on ne l'a pas encore vu à l'action en tant que ministre. Il est clair que si... D'entrée, il applique une politique sur la laïcité qui n'est pas celle qu'appliquait son prédécesseur ou qui a été appliquée jusqu'à maintenant en France avec une laïcité assez stricte à l'école, s'il fait entrer le wokisme dans les programmes, là, on pourra dire, mais pour le moment, il n'a pas encore agi. Donc, laissons-lui le bénéfice. Ben oui, je suis ministre,
il a quand même
je me confronte au réel, je change.
Pascal, il a une lourde pathologie qu'il continue d'enseigner. Il faut écouter sur ce point précis Ferry, qui connaît très bien son œuvre et qui dit très clairement qu'il est dans une lignée qui est l'anti-républicanisme français. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne va pas se transformer tout d'un coup.
Oui, mais vous savez, à l'épreuve du réel, on change beaucoup.
À l'épreuve du réel, en politique, on peut beaucoup changer.
Oui, bah lui, j'en doute fort.
Vous le
parce
savez.
Parce que c'est ce qu'il a véritablement, ce qu'il a professé, etc. Qu'il soit intelligent, c'est évident. Qu'il soit capable, qu'il soit le résultat de la méritocratie, d'accord ? Eh bien, s'il est le résultat de la méritocratie, il doit renier ce qu'il a écrit auparavant.
Surtout qu'en fait, on est vraiment dans le domaine du symbole et du signal qui est envoyé. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, quand il le met,
il y a une opération politique tactique. Ça, c'est évident.
Bien sûr.
Il y a une opération politique tactique qui est évidente.
Exactement.
Alors, Gaëtan, laissez finir Gaëtan, Pascal, oui.
Pardon. On est entièrement d'accord sur le côté, voilà, la visée électoraliste de la nomination de Pape Ndiaye. C'est une sorte de renvoi d'ascenseur, d'ailleurs, à Jean-Luc Mélenchon, pour essayer, voilà, de se garder un électorat un peu de gauche et d'éviter que tout le monde parte sur la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la NUPES. Mais il n'en reste pas moins que les propos de Ndiaye, pour le coup, contrairement à ceux de Jacques Lang et d'autres ministres socialistes, en effet, hein, qui ont fini dans la social-démocratie, l'ultralibéralisme, alors qu'ils avaient commencé dans la révolution trotskiste, il n'en reste pas moins que là, les propos d'Ndiaye, c'est des propos qui datent de l'année dernière, sur la non-reconnaissance de l'islamo-gauchisme, sur une interview où il chante les louanges des Traoré, sur les accusations de violences policières. En juin 2020, il faisait même la comparaison entre l'action de la police française dans les banlieues françaises avec ce que faisait la police lorsqu'il menait des rafles contre les juifs sous le régime de Vichy. Donc là, on est quand même sur des propos qui sont très grave. Et le signal qui est envoyé de se dire finalement, alors que l'école devrait être ce creuset républicain, ce vecteur de creuset républicain, où tout le monde est sous la même enseigne, où il n'y a pas de différence ni sociale, ni religieuse, ni culturelle, ni ethnique, eh bien, envoyer le signal qu'on a quelqu'un qui, justement, est complètement à l'inverse, fait des sections en fonction des origines des gens, les considère différemment en fonction de ce qu'ils sont et non pas de ce qu'ils font, moi, me pose un sérieux problème pour moi.
C'est plus qu'un problème,
verra l'épreuve des faits.
On verra l'épreuve des faits, effectivement. On verra l'épreuve des faits. À tout de suite, petite pause de pub et on se retrouve pour parler du pouvoir d'achat. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Pouvoir d'achat, et Bruno Le Maire en appelle aux entreprises. Hier, il a appelé les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires lors d'une réunion à Bercy avec les organisations patronales. Il a déclaré « Il faut que nos compatriotes se disent « ça me rapporte de travailler et pas ça me coûte cher à cause du prix de l'essence. Le retour de l'inflation est une source de préoccupation et d'inquiétude. La réponse à l'inflation doit également doit être équitablement partagé. Cela ne peut reposer uniquement que sur l'État. Alexis Poulain, on voit que la réforme des retraites, juste avant les élections législatives, est mise légèrement en pause et que là, on est en train de parler du premier sujet de préoccupation des Français, qui est le pouvoir d'achat.
Évidemment. D'ailleurs, c'est Macron qui se met le plus loin possible de cette réforme des retraites, qui envoie Olivier Dussopt au front. Mais sur le pouvoir d'achat, on a eu des déclarations formidables. Hein. Bruno Le Maire qui nous promettait le 30 glorieuses, qui nous explique que ça va être délicat et qui demande aux entreprises d'augmenter, si c'est possible, les salaires. Et puis de l'autre côté, le directeur de la Banque de France, Monsieur Leroy de Gallo, qui explique que l'inflation due à la guerre en Ukraine, c'est un petit mal à payer, il va falloir se serrer la ceinture pour sauver nos valeurs. C'est facile à dire quand on a un gros salaire. Les Français, ils se rendent compte que depuis des mois, ça ne va pas. L'inflation ne fait qu'augmenter, l'économie ne va pas très bien, et ce n'est pas le fait du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est global, et les réponses sont très loin du compte. Le chèque énergie, les 15 centimes à la pompe qui sont effacés par l'augmentation à nouveau
du prix de l'essence. Tout est extrêmement volatile. L'inquiétude est là. Et les réponses sont faites un effort, soyez sympa, serrez-vous la ceinture. Ça ne peut pas passer comme ça. Alors évidemment, c'est la séquence législative, mais j'aimerais savoir comment Emmanuel Macron va vendre ensuite sa politique d'austérité, puisque là, on apprend que la Commission européenne pousse la France à accélérer sur la réforme des retraites, même si les règles budgétaires sont assouplies jusqu'en 2023. La promesse d'Emmanuel Macron, c'est de revenir à l'équilibre en 2027. Et pour ce faire, il faudra une politique d'austérité telle que la France n'en a jamais connue. Et j'attends de voir comment Emmanuel Macron va expliquer ça avec ses ministres comédiens.
Oui, Pascal Jalabert, sur cette
séquence.
Oui,
alors... La difficulté, c'est que Bruno Le Maire demande aux entreprises d'augmenter leurs salariés, mais les entreprises, elles voient leur charge fixe augmenter. C'est-à-dire, les entreprises, elles ont besoin de matières premières pour travailler, elles ont des frais de transport, elles ont des tickets restaurants qu'il faut augmenter parce que s'alimenter devient plus cher. Donc aujourd'hui, très clairement, leurs marges se réduisent et leur possibilité d'augmenter les salariés avec. Donc du coup, autant c'était faisable il y a 2 ans quand il y a eu la première prime Macron où beaucoup d'entreprises étaient dans le vert, aujourd'hui, elles n'ont plus cette souplesse-là. Vous avez même des entreprises qui refusent des marchés parce qu'elles n'ont pas les matières premières. Aujourd'hui, essayer dans le bâtiment de faire poser une nouvelle chaudière, de refaire votre toiture, on vous dit, attendez, il y a 4-5 mois de délai parce qu'on n'a pas la matière première. Donc, du coup, on a des entreprises qui tournent au ralenti et qui n'ont pas la possibilité d'augmenter les salaires de ce qu'il faudrait. Rappelons quand même que l'inflation est de 4,8% à fin avril et encore, ça prend en compte tous les produits. Quand vous prenez les produits de première nécessité et les charges fixes, notamment celles du logement, vous êtes plutôt autour de 6,5%. Donc du coup, aujourd'hui, très peu d'entreprises, alors on va nous parler de Total et de quelques sociétés liées aux hydrocarbures ou aux énergies, oui, mais enfin, elles comptent très peu de salariés par rapport à tout ce qu'ont les Français.
Alors,
les usines automobiles tournent au ralenti faute de matières premières, donc elles ne vont pas augmenter les salariés maintenant, et en plus, les ventes de voitures fléchissent. Donc du coup, on est dans une spirale très négative, pas très loin de ce qu'on appelle la stagflation.
Oui, alors après, il y a un choix parce que si on veut dire, juste je rajoute un mot, mais c'est un rapport qui est publié aujourd'hui sur le versement aux investisseurs. Les dividendes qui sont versés n'ont jamais été aussi hauts, 302,5 milliards sur le premier trimestre. C'est du jamais vu et le rapport Oxfam qui est sorti hier, qui a montré que la fortune des milliardaires en 2 ans a été multipliée autant qu'en 23 ans. C'est-à-dire qu'il y a une captation des richesses qui fait qu'on choisit la finance contre l'économie réelle. On pourrait augmenter les salaires si on diminuait les dividendes. Or, aujourd'hui, le choix est clair. Finance se gave. Les travailleurs, eux, se serrent la ceinture.
On ne peut pas généraliser. La France est aussi un tissu de petites et moyennes entreprises qui ne se reversent pas de dividendes et qui souffrent énormément. Donc, on ne peut pas faire de cas...
Qu'on pourrait taxer ces entreprises qui ont profité de la crise pour aider les PME, justement, au-delà d'endetter l'État encore, au-delà des 600 milliards qu'assume Emmanuel Macron.
Pour financer
il y aurait une solidarité à mettre en place.
Pour financer mais quoi qu'il en coûte. C'est à ses dividendes, ces entreprises.
Oui. Alors, Jacques Myard, mais ces entreprises sont aussi celles qui payent le plus d'impôts.
Il faut sortir de ce concept de l'économie maastrichtienne qui est complètement, je dirais, obsolète, rébus sixtantibus. Deuxièmement, une politique des revenus est nécessaire. Ce n'est pas des coups de pouce qu'il faut donner. C'est une politique des revenus qui dure sur la durée. Et puis enfin, c'est un gouvernement oxymore qui est en pleine contradiction. Parce que c'est bien gentil de prendre des sanctions qui vont d'abord frapper nos entreprises et les Français, mais il y a un moment, ça commence à bien faire. Qu'il ne s'agit pas d'embrasser, je dirais, Poutine sur la bouche, ça jamais, mais il n'en demeure pas moins que prendre des sanctions qui se retournent contre nous-mêmes, c'est quand même franchement une imbécilité notoire, hein, qui restera absolument incompréhensible pour les historiens du futur. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on va trouver une solution à la crise ukrainienne. Donc moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut mettre en place une politique qui soit une politique des revenus. Ce n'est pas par des coups de pouce au SMIC, etc. Ça doit être sur la durée. Et là, c'est une nécessité de confiance entre le gouvernement, les syndicats et autres, où on avance pas à pas. Enfin, dernier point, on a oublié que effectivement l'inflation, c'est une valeur d'ajustement. Et c'est là où tous les critères de Maastricht sont imbéciles, parce que je me souviendrai toujours de ce qu'on me disait quand Pompidou préparait son budget. On lui disait, ah ben, il y a une petite inflation de 4-5%. Je dis, c'est pas un problème, parce que ça montre qu'il y a une certaine dynamique de l'économie et que ça permet, c'est peut-être cynique ce que je vais vous dire, de réduire la dette. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a un moment, il faut avoir une politique beaucoup plus cohérente et pas se tirer une balle dans le pied en voulant sanctionner les Soviétiques.
Gaëtan Dussausset, sur cet appel aux entreprises.
Oui, mais le problème, en fait, c'est que le gouvernement d'Emmanuel Macron a tellement l'habitude de tout faire pour les très grands groupes qu'il en oublie, en fait, tout le reste. Et il se trouve que les trois quarts des emplois salariés dans notre pays, ce sont des TPE, PME, c'est-à-dire des très petites et moyennes entreprises. Et elles n'ont évidemment pas les moyens de supporter cette hausse des salaires. C'est pour ça que nous avions proposé de permettre une hausse de salaire, mais qui soit déchargée des cotisations patronales et des cotisations sociales qui pèsent évidemment sur la comptabilité des entreprises. Mais après, évidemment, hein, si aujourd'hui on trouve que les salaires sont trop hauts, c'est que le reste de la vie coûte trop cher. Donc si l'État peut déjà faire en sorte que lorsque ça augmente, eh bien lui fait des petites économies sur son dos en baissant la TVA et en rendant de l'argent aux Français, tout le monde se porterait mieux.
Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. On se retrouve, nous, demain pour d'autres débats. À demain.